Bonjour et bienvenue dans la saison 2, épisode 2 du journal d'une curieuse créative. Je suis Chloé, éleveuse de brebis limousines et hampshire dans le Limousin. Je suis passionnée des arts textiles et je suis avide d'apprendre et de partager avec vous mes découvertes. Ce podcast est là pour vous inspirer à vivre la vie que vous voulez vraiment. Revenir à l'essentiel pour vivre une vie authentique. Nous sommes le 10 avril 2019 et je vous propose dans ce nouvel épisode les segments habituels. Donc à la ferme où il y a pas mal de choses en ce moment qui se passent. L'atelier fibre-laine où il y a aussi pas mal de choses mais quand même beaucoup de tissage. Pour la lecture, ce sera un petit policier qui a trait au tricot. Et sur le segment curiosité, je vais vous parler du tissage et de son histoire à travers le temps et le monde. À la ferme. Il y a eu beaucoup de travaux dehors, notamment au niveau du maraîchage. Ça commence à être bien chargé. En ce moment, on fait pas mal de petits semis sur les plaques, même si la grosse période s'est quand même un petit peu achevée. Mais on resème régulièrement tout ce qui est salade, voilà. Donc ça, on sème des petites graines dans des plaques. On a reçu les bulbilles d'oignons. On a reçu 2 sacs de 25 kg d'oignons jaunes et 1 sac de 25 kg d'oignons rouges. Donc ça, Hugo avait préparé le terrain, on a tout planté. J'espère qu'ils seront beaux. L'an dernier, ils étaient assez beaux, mais ils se sont mal conservés. Donc on verra cette année. On a fait pas mal de travail du sol également pour préparer les planches de légumes. Ça fait un petit moment, mais on a repiqué les navets également. Là, au niveau du maraîchage, les serres sont encore assez pleines de salades, d'épinards. Les fèves commencent à être assez jolies. Il y a les fleurs, c'est très beau, les fleurs de fèves. Les oignons blancs qui commencent à faire leur bulbe, donc on commence à en vendre à la ferme. L'ail aussi qui est prêt. L'ail, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'ail frais en fait, qu'on récolte quand c'est encore blanc. Et c'est très bon cru, finement ciselé dans les salades ou également cuit dans les patates sautées. Voilà un petit peu ce qu'il y a à la ferme. Et puis on a pas mal, cette année on a pas mal de salades, donc c'est agréable à manger. Donc dans la serre à plants, il n'y a plus grand chose, on a repiqué pas mal de trucs. Il reste les tomates qui ont bien grandi. Il reste les tomates et il reste les poireaux. Si Hugo fait une partie des poireaux en plants qu'on achète donc et une partie en graines qu'on sème. Donc ça, il reste dans la serre à plants. Il faudra bientôt qu'on les repique. Donc voilà au niveau maraîchage, au niveau légumes. Pour les autres travaux de la ferme, on a un petit peu travaillé au verger. Notamment, on a paillé les jeunes pommiers qu'on avait plantés et greffés. Les greffes ont bien pris, donc ça c'est chouette. On a mis, on avait 6 variétés dans le verger et là on en a mis, je sais même pas, beaucoup. C'est pas pour tout de suite, c'est des projets à long terme, mais ça devrait bien donner. Donc, on a fait ça. On s'est aussi occupé des petits fruits, notamment des framboisiers, myrtillers et des mûriers. Donc on a désherbé, on a paillé pour certains et puis on a mis de la laine pour d'autres. On a fait la tombe, je vous raconterai. Donc tous les pieds de mûrier ont repris, les myrtillers aussi. Il y a quelques framboisiers qui n'ont pas repris, qu'on avait replanté. Mais sinon ça fait quand même une belle planche de petits fruits. Donc cette année on devrait avoir des framboises et des mûres. Et pour les myrtilles, il faudrait qu'on enlève les fleurs cette année, ce qui permet au pied de myrtille de bien se développer la première année. Voilà, c'est ce qui est conseillé. Donc ça, faut qu'on le fasse parce que ben, il commence à y avoir les fleurs, ben, notamment sur un petit peu les pommiers, mais c'est assez lent, sur les poiriers, les aubépines et puis les myrtilles aussi. Donc ça, ce sera à faire. Dans les champs, eh ben, on a passé la herse sur les prairies. Donc c'est un outil à dent droite qui permet d'aérer en fait les prairies. Ça, on le fait chaque année. On n'a pas beaucoup de terrain, on a 30 hectares et on le fait pas partout. Il y a des zones où on peut passer, d'autres non. Mais voilà, c'est encore un peu sec chez nous. Il y a eu quelques pluies, mais l'herbe commence à pousser, mais c'est pas encore le gros boom. Au niveau du poulailler, on a eu une petite baisse de production d'œufs. Donc je ne sais pas trop à quoi c'était dû parce qu'il faisait pas très très froid, les journées étaient quand même assez longues, assez belles. Donc j'ai pris les choses en main et j'ai fait un petit réaménagement du poulailler. Donc quand je dis réaménagement, c'est améliorer un petit peu les pondoirs, donc agrandir la surface de pondoir. Et puis j'ai changé un pondoir de place. Voilà. Et donc j'ai fait ça au début de semaine. Et là, donc je sais pas si c'est lié, mais en tout cas c'est reparti. On a plus de 25 œufs par jour. Donc ça c'est chouette. C'est très marrant les poules parce que quand elles sortent, donc déjà souvent elles ont hâte de sortir. J'ouvre pas au petit matin, hein, j'ouvre un peu plus tard. Elles vont dehors et elles trouvent des petits vers très rapidement. Elles les voient très vite. C'est fou la vue qu'elles doivent avoir. Et un matin, elles ont attrapé. Ben c'était un crapaud. Donc moi, j'avais mis l'eau, j'avais mis le grain dehors. Et je l'avais même pas vu, ce crapaud. Et elles sont sorties et elles l'ont attrapé. Voilà, donc au niveau de la tonte, on a donc tondu une partie du troupeau. Donc on a tondu les agnelles qui ont commencé à mettre bas début avril. Et on a fait les chèvres en même temps. Donc ça s'est bien passé. C'était assez rapide parce qu'il n'y avait que 50 agnelles. Donc c'est allé assez vite. On a fait quelques brebis aussi, mais très très peu. Les brebis qui n'ont pas pris cette année. Et donc on les a tondues. Et voilà, donc ça c'est chouette. J'aime bien. C'est toujours un moment sympa. Si on a les mains dans la laine, on voit un petit peu, on regarde un petit peu les toisons, c'est chouette. Et donc en parlant des moutons, donc l'agnelage des brebis s'est terminé il y a un petit moment, on a fait le tri dans les agneaux. Donc les agneaux les plus beaux qui étaient nés en premier, puis ceux qui étaient vraiment beaux, vraiment en état, on les a sortis donc au champ avec les mamans. Et puis les plus petits qui sont nés ou plus tard ou qui étaient moins jolis, moins en forme, eux, je les laisse encore dans la bergerie, le tunnel, pour déjà pour les avoir sous la main s'il y a un problème et puis pour qu'ils démarrent mieux. Et donc aussi au niveau de la vie, la bergerie, les agnelles ont commencé à mettre bas. Donc les agnelles, c'est des moutons femelles qui n'ont pas encore eu de petits. Donc c'est le nom qu'on leur donne avant qu'elles aient eu leur première mise bas. Non, il y a quatre limousines qui ont fait des petits. Donc ça s'est très bien passé, on n'a pas eu à intervenir. Elles sont maternelles, elles ont du lait. Et il y a deux hamchirs, donc mes deux premières hamchirs qui ont mis bas à la ferme. Donc pareil, ça s'est bien passé. Je pense que ça a été un petit peu éprouvant pour une qui est restée longtemps couchée, qui a eu un petit peu du mal. Et le petit, je pense, a dû peiner un petit peu aussi parce que d'habitude, ça se lève assez vite. Et là, c'était quand même plus mou, plus. Mais en tout cas, il y a du lait, ça tète bien. Les deux petits des hampshires et les deux hampshires s'occupent très bien de leurs agneaux, donc ça c'est chouette. Et puis il y a quelque chose de particulier pour les premières mises bas, je trouve que ça change un peu leur caractère. Elles sont un peu plus posées, on peut plus les approcher. C'est vraiment, enfin, certaines restent sauvages. J'aime bien ce moment, quoi. Elle change un petit peu quand même. Ah si, on a encore. Alors c'est pas vraiment au niveau de la ferme, c'est plutôt au niveau de la maison. Mais Hugo m'a fait des bacs à fleurs en châtaignier pour devant la maison. parce que ça fait un petit moment que je veux un jardin de fleurs, mais on peut pas vraiment dire que j'ai la main verte. Et bon, cette année, j'avais quand même des grandes ambitions de me faire des bacs à fleurs devant la maison pour mettre des aromatiques, des plantes médicinales, tout ça. Et puis, ça prenait pas forme. Et en fait, les gens de la... Enfin, le département a curé les fossés sur la route au-dessus de chez nous. Et ils nous ont demandé s'ils pouvaient mettre de la terre sur nos terrains parce... pour la stocker, en fait. Et donc, on a dit oui. Et ils en ont mis pas mal. Et il y a notamment une partie de terre très, très jolie. De jolies terres avec des feuilles et tout. Donc, on s'est dit, bon, allez, c'est l'occasion. On va concrétiser le projet de jardin de fleurs. Donc Hugo m'a fait des bacs en rondins, tout très joli, très très beau. Et moi j'ai planté, alors j'ai replanté de la mélisse qu'il y avait dans un endroit un petit peu loin où j'allais pas forcément. Et puis j'ai aussi semé des graines en pleine terre directement, notamment des capucines, des cosmos, des bleus et des œillets. Des lupins, j'adore les lupins, j'espère que ça va pousser. Des nigelles de damas, des marguerites, enfin voilà, toutes ces petites fleurs sympas. Donc ça c'est en cours, on a fait devant la maison, faut qu'on fasse un petit peu plus loin dans le jardin. Et puis j'espère que je pourrai partager des photos avec vous de ce joli jardin de fleurs. Voilà pour la ferme. L'atelier fibre laine. Du tissage, du tissage, du tissage. Je continue mon aventure sur mon métier à tisser. Je fais des étoiles en ce moment et je découvre une nouvelle fibre. Je découvre le coton que je n'avais jamais travaillé sur le métier à tisser. J'en ai jamais tricoté, j'en ai juste crocheté cette année. C'est une fibre que j'aime bien et que je voulais essayer sur le métier. J'ai fait des étoles avec une armure toile toute simple et l'objectif était encore de travailler mes lisières parce que j'aimerais qu'elles soient vraiment très régulières. C'est un point qui me... Je regarde souvent chez le tissage d'autres, je regarde souvent ce détail alors qu'il n'a pas vraiment d'importance, mais... Et en fait, donc, avec ce coton, la laine n'étant... Pardon, le fil n'étant pas élastique, je trouve que les lisières sont plus régulières, plus constantes. Donc, j'ai aussi changé un autre point. J'ai mis des petits pois que j'avais de ma machine à tricoter sur les deux fils qui sont aux extrémités en fait de l'ouvrage. Et donc ça crée une tension légèrement plus forte sur ces fils que dans le reste de la chaîne. Et j'ai trouvé que là aussi ça permettait de faire des lisières plus jolies, plus régulières. Je travaille sur des étoles en dégradé. Donc la première que j'ai fait c'était dans les tons roses qui allaient jusqu'au blanc pour terminer sur un joli parme doux. Deuxième c'était plutôt un vert qui allait sur du marron clair. Et là je suis plutôt dans ma zone de confort, dans les couleurs que j'aime beaucoup. Ça part d'un turquoise pour aller à un vert un bleu pétrole jusqu'au noir. Et ça c'est assez... j'aime beaucoup faire ça, c'est vraiment les bleus et les bleus qui tirent vers le violet, c'est un peu mes couleurs préférées. Donc voilà pour le tissage. L'autre, j'ai repris à faire des chaussettes également sur la machine circulaire. J'avais perdu un peu l'habitude, j'avoue, ça faisait longtemps, mais bon, on reprend vite ses marques et ça va. Donc j'ai fait deux paires pour moi et une paire pour Hugo qui... je sais pas comment il fait, mais bon, bref, il les trouve très facilement, alors que moi, les miennes durent, avec la même laine, durent très longtemps. Bon, il est vraiment pas soigneux avec ses chaussettes. Mais bon, c'est l'occasion d'en refaire quand il y a des gros trous. Et je fais aussi une grande couverture en crochet, donc en coton également. Et c'est des petits ronds de couleur que je fais avec une bordure carrée grise. Donc ça avance. C'est mon petit ouvrage du soir dans le lit. Je fais un, généralement, je fais un rond, puis j'arrive à faire une ou deux bordures et j'écoute mon livre audio. C'est mon petit moment détente et j'aime bien. Et c'est un projet au long cours. J'aime bien parce qu'à la fin de la semaine où je regarde les carrés qui sont dans mon sac à ouvrage qui sont terminés, ben je les mets dans la grande boîte pour faire la couverture. Donc c'est une progression visible. J'aime bien. Et sinon, au niveau de la machine à tricoter, je fais toujours mes écharpes pour le dépôt-vente des Monts de Guéret. Et je me suis remise un petit peu dans la teinture, dans l'atelier d'été, parce que j'aimerais faire une nouvelle collection de couleurs pour l'automne. Donc je m'y prends assez tôt. Donc voilà, ça c'est les projets en ce moment. Et puis j'ai commencé également un gilet sans couture en mohair. Lecture. Donc j'ai commencé à lire un premier roman d'une série policière, on peut dire. Donc la série, ça s'appelle Seaside Knitters Society Mystery. C'est une série écrite par Sally Goldenbone. Donc c'est une professeure de philosophie qui tricote et qui a écrit pas mal de romans, dont cette série. Je suis sûre, pardon, que ça n'est pas traduit en français parce que j'ai essayé de trouver le premier tome en français et je ne l'ai pas trouvé. Donc je vais vous lire le résumé. Cette toute nouvelle série de mystères raconte des histoires de tricoteuses et de meurtres dans un village balnéaire pittoresque. Peu de temps après Isabelle, Izzy ouvre un magasin de tricot dans la paisible ville de pêcheurs de Sea Harbor, dans le Massachusetts. Un groupe diversifié de femmes commence à se rassembler chaque semaine pour former les Seaside Knitters. Izzy fronce les sourcils lorsqu'elle loue l'appartement situé au-dessus de sa boutique à Angie Archer, qui est réputée pour son comportement décontracté et son tempérament rapide qui l'a rendue impopulaire auprès de nombreux habitants. Mais est-ce que l'un d'entre eux aurait voulu la voir morte? Le corps d'Angie est retrouvé noyé dans le port, ses longs cheveux roux emmêlés comme des algues dans un casier à homards. Une enquête officielle fait de la mort un accident. Il y a des spéculations sur trop de liqueurs de whisky, un quai glissant, une nuit sombre, mais Izzy, le propriétaire du magasin de tricot, et les Seaside Knitters sentent quelque chose de louche. Lorsque plusieurs incidents étranges se produisent au-dessus du magasin, les femmes décident de prendre les choses en main. Mais bientôt, leur sentiment de sécurité dans les petites villes s'est effrité et la menace d'une violence accrue pèse sur cette communauté très unie. Je l'ai choisi parce que, bon, déjà j'aime bien les policiers, et puis surtout il y avait cette dimension tricot qui m'a bien 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 plu. Donc ce livre, le Death by Cashmere, c'est le premier tome de la série, et elle a également écrit une autre série de mystères qui s'appelle Queen Bee's Quilt. Donc on reste un petit peu dans les hobbies de Phil. Et donc ça se passe aux États-Unis. C'est un livre assez rapide à lire. Bon, il y a pas mal de volumes, mais les livres ne sont pas très gros. Ça se passe dans une ville assez charmante. On parle un peu de tricot, bien sûr, mais on parle aussi beaucoup de nourriture. Ça parle pas vraiment tricot. C'est quand même assez léger sur le tricot. Donc moi j'ai bien aimé le côté un petit peu vieille dame qui mène une enquête qui tente de résoudre le meurtre en fait de leur amie. C'était assez rigolo, voilà. Et puis j'aime bien le côté bord de mer aussi. Izzy Chambers, qui a 31 ans, décide de créer ce magasin de laine en fait au bord de la mer. Et avant, elle avait une carrière d'avocate en fait. Elle voulait changer un petit peu et elle décide donc d'ouvrir ce magasin. Et elle aime beaucoup son nouveau métier. Elle aime beaucoup choisir les laines. Et donc son magasin attire pas mal de personnes, des jeunes et des moins jeunes. Il y a une zone un petit peu spéciale où les gens donc se rencontrent chaque jeudi pour tricoter et bavarder. Voilà, donc ça c'est, je trouvais que l'ambiance était assez sympa. Donc il y a Nell, il y a Izzy, il y a Birdie Favaza. Donc ça c'est une veuve un peu une veuve riche de 80 ans. Il y a Cass Halloran, c'est une pêcheuse. Enfin voilà, c'est des gens assez différents et on a un petit peu aussi leur vie. Et ça, c'est super sympa. Angie, qui louait l'appartement au-dessus du magasin, est retrouvée morte en fait dans le port et la police conclut un accident en fait. Et donc le groupe de tricoteuses n'y croit pas en fait. La police, pardon, déclare que c'est un accident et donc ce groupe de tricoteuses se sent vraiment concerné et pense que la police n'a pas fait suffisamment son travail. Le groupe commence à se poser des questions, notamment sur le... Il y a un pull en cachemire que Angie portait la nuit de sa mort et on le retrouve pas. Enfin voilà, c'est assez... Il y a pas mal de mystères et puis on essaie de résoudre ça. Et donc c'est un petit peu aussi la communauté face à ce sentiment d'insécurité. Et puis est-ce qu'on se connaît vraiment? Voilà, donc c'est ce groupe de tricoteuses décide de découvrir qui est le tueur pour retrouver l'existence paisible à Sea Harbor. Donc il y a quand même pas mal de tricots. Les personnages sont assez différents dans leur caractère, mais aussi au niveau de leur tricot. Il y a des paragraphes entiers où on parle de projets tricots, des avancées, des difficultés. On parle également pas mal de nourriture et de boissons dans ce livre. Et le cadre est assez sympa. Donc si vous voulez vous lancer dans cette série de livres, je vous le recommande, c'est assez sympa. C'est pas très long, je vous l'ai dit. Il y a plusieurs livres, mais voilà, vous pouvez les grappiller au fur et à mesure. Vous allez être, je pense, assez contente de vous retrouver dans ce petit village avec ces dames qui tricotent. Et puis au niveau du suspense, c'est quand même assez bien fait parce qu'on soupçonne différentes personnes à différents moments du récit et c'est vraiment à la fin qu'on a la réponse. Je vous en dis pas plus. Curiosité. Donc voilà le dernier segment pour cet épisode. Donc dans ce segment, je voulais vous parler du tissage. Je suis pas mal intéressée par ça en ce moment. Et puis j'avais déjà fait un petit segment curiosité sur l'histoire du tricot. Et puis j'avais eu des retours assez sympas. Merci d'ailleurs. Et donc je voulais vous parler du tissage et plus précisément du tissage dans le monde à travers le temps. Certains archéologues assurent que le tissage existait déjà il y a 40 000 ans. Ils ont trouvé notamment sur des sites archéologiques du Paléolithique des outils caractéristiques de ce travail. Donc notamment des fines aiguilles qui ne pouvaient pas être utilisées pour le tissu en fait. Et c'est vrai que c'est un art et un artisanat assez ancien qui se caractérise en fait par le fait qu'on utilisait souvent assez peu de matériel et assez de matériel rudimentaire pour entrecroiser des fils dans le but de faire un tissu. La naissance du tissage vient un petit peu des besoins de l'homme pour se vêtir. Et notamment ne plus vêtir avec des peaux de bête qui sont déjà difficiles à transformer, qui sont lourdes et qui parfois ne se conservaient pas très bien. Faut pas imaginer que les tissus étaient quand même plus fins et plus agréables au paléolithique, mais c'était quand même plus agréable à porter. Et en fait, cette évolution n'a jamais cessé dans le tissage et on travaillait le chanvre dans le nord de l'Europe et en Inde, notamment avant Jésus-Christ. Donc les pays méditerranéens sont passés maîtres dans l'art du filage et notamment dans la teinture et le tissage des laines de mouton. Et en Asie et en Chine, c'était plutôt la soie. Donc les métiers à tisser se sont relativement vite perfectionnés et ils ressemblaient à ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc je ne parle pas des métiers à tisser qui sont, je crois, il y en a qui sont connectés à un ordinateur. Enfin, je parle quand même des métiers assez basiques. Donc dans le temps, le tisserand s'asseyait par terre pour tisser et il faisait des trous dans le sol pour maintenir son métier. Donc dans les pays froids, les artisans commencent à placer la chaîne plus haute en fait pour pouvoir s'asseoir sur un banc et comme ça, ils ont moins froid. Aujourd'hui, en Afrique et en Amérique du Sud, les tisserands travaillent encore au sol. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui du tissage, c'est qu'il existe depuis très longtemps et on a des preuves et des sources. On connaît le tissage depuis à peu près 2000 ans, on commence à étudier le tissage. Voilà. Donc, c'est assez difficile de connaître les tissus de l'époque parce que c'est souvent dans des fibres naturelles, donc qui se décomposent. Ils sont fragiles et ils ne se conservent pas vraiment en fait. Mais il y a quand même, on retrouve quand même des traces et notamment des quelques étoffes venues de Perse au 3e siècle de notre ère. Donc ça c'est assez intéressant et c'était déjà des tissus et des tissages très 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 élaboré avec des motifs vraiment fins. Donc cette culture textile a mis pas mal de temps en fait à franchir les frontières et notamment ce n'est qu'à la fin de la préhistoire que les Espagnols découvrent le coton. C'est dans une grotte près de Barcelone qu'on a trouvé un morceau de tissu en coton qui venait très certainement du Moyen-Orient. Quant à la soie, elle arrive en Europe depuis l'Extrême-Orient par Venise et Rome sous l'impulsion de Jules César. Donc elle est très chère et à cause du voyage qui est assez long, assez périlleux, elle arrive quand même à prix d'or à Rome. Donc c'était pas accessible à tout le monde. On ne pouvait se pas se la procurer à meilleur marché car les Chinois gardaient encore la production et le travail de la soie très très secrète. Donc dans la Rome antique, on n'utilisait pas vraiment de la soie pour s'habiller. On l'utilisait notamment dans les décors de théâtre, mais c'était pas encore très très répandu. Donc c'est pendant le Moyen Âge en fait que le coton et le lin entre dans la péninsule ibérique par la culture musulmane. Donc c'est des tissus d'influence byzantine et ils arrivent au 12e et 13e siècle dans le sud de la péninsule, dans des villes comme Almeria, Grenade ou Séville. Les fils de coton qui très fins et résistants, les tisserands espagnols essaient de créer un nouveau tissu qui s'appelle la futaine. Donc c'est une chaîne en coton et une trame en laine. Donc elle est tissée au point de serger pour que le tissu soit assez solide et quand même relativement doux. C'est un tissu qui a eu beaucoup, la futaine, qui a eu beaucoup de succès en Europe pendant 400 ans. Les tisserands ont manqué de fil en fait. Donc jusqu'au 13e siècle, le filage s'effectuait à la quenouille et au fuseau. Et en fait, les fileuses passaient toute la journée à filer de la laine brute qui était accrochée à la quenouille à l'épaule et elles faisaient tourner leur fuseau pour faire le fil. Une bonne fileuse, donc c'est des approximations, mais une bonne fileuse en fait pouvait filer environ 1 kg de laine par semaine, donc à peu près 150 mètres à l'heure. Pour tisser en fait, il faut savoir qu'on tisse au mètre. Donc souvent, ils montaient des chaînes sur le métier de 200 ou 300 mètres de long avec 5 fils au centimètre, ce qui est un tissu assez dense. Donc sur une largeur de 1 mètre, ce qui représente déjà pour cette chaîne-là 150 km de fil au total. Et ça, c'était donc juste pour la chaîne. Donc les tisserands avaient besoin de beaucoup de matière. Et la machine à filer, la première machine à filer, apparaît en 1350. Elle est assez rustique, mais elle a permis un progrès assez important pour le filage. Et ça a permis de commencer un développement relativement industriel du tissage. Ambrosio de Morales, qui est à Séville en 1575, raconte qu'il y avait déjà 16 000 métiers à tisser qui fonctionnaient. Donc ça, c'était le côté industriel. Toujours à cette époque, ils inventent les navettes à roulettes. Et en fait, c'est aussi dans un but pour tisser toujours plus vite. Voilà. Malgré toutes ces inventions, ça reste assez artisanal, qui est relativement bien payé et c'est un métier très très respecté. Au 15e et au 16e siècle, pas mal de voyages qui se font. Avec l'essor des grandes puissances navales, cet échange permet un brassage des cultures et des savoir-faire. Et il faut savoir aussi que les voiles de ces bateaux à l'époque étaient tissées. Il fallait vraiment produire en quantité ces tissus. À cette époque, l'idée du luxe passe par le fait de posséder des tissus fins et notamment des tissus ornés de dessins assez complexes, des damas, des satins de couleur, des velours, du lin brodé, des tentures de soie. On incorporait également dans les vêtements des fils d'or, on incrustait des perles, des pierres précieuses. Donc voilà, les puissants font vraiment appel aux artistes et aux tisserands les plus compétents. Des artisans venus de loin emmènent leur savoir-faire, leurs outils et leurs secrets. Notamment, les orientaux apportent le camelin. Donc c'est un tissu très très beau, très cher, qui est fait à partir de poils de chameau. Et il y a aussi le camelot, donc ça c'est une étoffe qui est faite à partir de poils de chèvre filés très très fins. Donc c'est vraiment des tissus de grande qualité. Et les Arabes introduisent des méthodes très avancées de teinture des fils, notamment à partir évidemment de plantes, mais aussi d'animaux. Et donc ça apporte de la diversité au tissu, qui jusqu'alors restait quand même toujours dans les coloris blancs ou écrus, et certaines laines qui donnaient des couleurs naturelles de brun, de gris. Et donc c'est ça qui est aussi très intéressant avec le tissage, c'est que tous ces savoirs s'entremêlent, s'entrecroisent, et ça permet à cet artisanat, cet art de progresser très très vite. Donc à partir du 16e siècle, les métiers à tisser, donc les outils pour permettre le tissage, vont se complexifier. Au départ, on utilisait principalement des métiers qui avaient quatre cadres. Avec les tissus qu'on appelle les damas, on arrive à avoir des tissus complexes. Et donc, il y a des métiers à tisser qui utilisent 12 pédales. Donc, plus vous avez de cadres, plus vous avez de pédales, plus les motifs peuvent être complexes. Voilà, donc ça a été un tissu qui a été beaucoup produit, beaucoup aimé, mais les gens commencent à s'enlacer. Et c'est toujours un petit peu quand même les mêmes formes à base de carrés, de rectangles et de losanges. Pour varier un peu, les seigneurs commandent des étoffes tissées avec leurs emblèmes, avec des phrases et des figures complexes. Et c'est comme ça que le tissage se dirige plutôt vers la tapisserie. Parallèlement à ce mouvement, vers 1530, le rouet est inventé et le fil devient moins cher parce que plus rapide à produire. Et pas mal de gens font l'acquisition d'un rouet. Qu'avec tant de métiers à tisser dans les campagnes, on voit plusieurs types de tissage, notamment les couvertures de Catalogne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la lirette qui se développe. Donc c'était un tissu chaud et vraiment parfait comme couverture ou tapis. Donc c'était des tissus qui avaient des rayures et des dessins pour obtenir des jolis motifs décoratifs. Donc de nos jours, la lirette n'est tissée que la véritable lirette n'est tissée que en Galice et aux îles Canaries. On en trouve aussi un petit peu en Suisse dans les chalets de montagne où elles servent principalement de tapis pour les escaliers. Alors lorsque la lirette voit le jour il y a à peu près 500 ans, beaucoup se passionnent pour son tissage et ça a été une des principales raisons qui fit que le métier à tisser s'est perpétué jusqu'à nos jours. Après le 16e siècle, le tissage n'évolue pas beaucoup, donc on fait encore beaucoup de damas. Certaines régions d'Europe se lancent dans la production de la soie et donc avec la culture du mûrier. Et les tisserands, pardon, l'utilisent à peu près de la même manière que le coton et le lin, sauf que les tissus à base de soie sont appelés des brocarts. Les gens apprécient ces tissus assez fins et assez simples pour le linge de maison. Et le fait de posséder beaucoup d'articles en tissu, c'était aussi la preuve de la richesse d'une maison. À partir du 18e siècle, le tissage commence à décliner. Il y avait donc 16 000 métiers à tisser à Séville en 1575 et il en resterait en 1780 que 18. Les gens de la campagne conservent en général les métiers chez eux et l'énorme développement qu'a connu cette activité à la fin du Moyen-Âge s'arrête net. Il y a deux raisons principales qui expliquent un petit peu ce déclin impressionnant du tissage artisanal. C'est que tout d'abord, il y a un désintérêt progressif pour les choses réalisées à la main. Le 19e siècle est le siècle de la mécanisation. C'est le début de l'industrialisation, ce sont les temps modernes. Et dans ce contexte, il n'y a plus vraiment de place pour une activité manuelle qui demande du travail, du temps, de l'attention, mais aussi de la créativité. Donc, bien sûr, on a toujours besoin de tissus, mais les métiers à tisser se mécanisent de plus en plus. En 1804, c'est un mécanicien français qui s'appelle Joseph Jacquard qui améliore l'idée d'un autre français et qui met au point le premier métier à tisser automatique. Le principe de Jacquard est encore utilisé aujourd'hui dans l'industrie textile. Ce principe, ce sont des aiguilles qui sont reliées par des fils, des poids et des ressorts. Au-dessus des aiguilles, on place des cartons et ce carton est percé de trous qui représentent le dessin qu'on veut obtenir sur le tissu. Et chaque fois que les aiguilles rencontrent un trou, elles s'abaissent et la navette passe le fil de trame. La seconde raison de ce quasi-abandon du tissage traditionnel, ça a été l'arrivée en Europe à la fin du XVIIIe siècle de tissus exotiques. Donc notamment les nouvelles colonies qui commençaient à développer leur économie et qui trouvaient en Europe un marché très accueillant pour ces tissus aux couleurs vives et pour ces matières jusque-là inconnues. Donc ces produits se vendaient à assez bon marché et trouvaient de bons débouchés au détriment des tissus artisanaux dont les gens s'étaient lassés. Qui a eu cependant un regain d'intérêt dans le sud de la France au XXe siècle, parce que ces régions avaient pris un petit peu de retard dans l'industrialisation du tissage, et donc on continuait à produire des toiles de manière artisanale. Des toiles l'indienne. Donc l'indienne, c'est un tissu en coton bleu foncé que l'on utilisait pour faire les toiles de tente. Et c'est notamment les pionniers et mineurs du Far West qui étaient les clients de ce genre de tissu. Bon, c'était un petit marché, et c'est ça qui a donné le fameux jean qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui, le tissage du jean s'est mécanisé également, mais pendant près de 50 ans, c'est donc ce tissage de jean qui a sauvé le tissage. Donc aujourd'hui, on connaît le tissage un petit peu traditionnel. Je pense que c'est pas encore revenu au goût du jour parce que c'est moins accessible que le tricot ou le crochet ou d'autres arts textiles qui demandent moins de place, moins de matériel. Mais c'est vrai que c'est un art qui perdure quand même, voilà. Puis je pense que c'est assez important de continuer et de garder ces savoir-faire précieux. Le tissage dans le monde. Le tissage, ça a toujours été le fidèle ami des peuples de la terre. Depuis l'Antiquité, on tisse et ce tissage traditionnel est une nécessité pour beaucoup de peuples primitifs. En Orient et dans les pays arabes, ce qui a fait la célébrité de l'Orient, c'est notamment les tissages. Et la Chine reste le plus grand producteur de soie au monde. Et grâce à l'industrialisation, elle est aussi au premier plan pour le tissage du coton. Mais en Chine, on n'utilise plus beaucoup de métiers traditionnels, malheureusement. Cependant, au Japon, les Japonais étant plus attachés à leur tradition, il y a encore pas mal de tissage traditionnel et on trouve encore des métiers à tisser en bois munis de peignes très fins pour tisser la soie qui s'appelle le Changtung, je crois. En Inde et dans les régions les moins développées d'Extrême-Orient, on tisse principalement le coton et la laine avec des métiers assez rudimentaire et le tourisme de masse notamment a donné une nouvelle impulsion au tissage artisanal notamment en Thaïlande et aux Philippines. Le Moyen-Orient était plutôt réputé pour ses tapis. On connaît beaucoup les tapis persans réalisés en Iran notamment et en Turquie. Et pour un tisserand, le plus intéressant dans ces pays, c'est le filage de la laine. En effet, les tapis typiques du Moyen-Orient sont exécutés en laine naturelle filée à la main et utilisés dans des couleurs naturelles, sans teinture. Donc les pays arabes restent les maîtres dans l'art de filer et de teindre la laine à la main, à l'aide de teintures naturelles. En Amérique, il y a une tradition de tissage très ancienne, notamment dans les territoires du Nord, chez les Indiens Navarro, les Sioux, les Hopi. On trouve également dans les Andes et en Amérique centrale les Mayas, les Aztèques, les Mixtèques qui faisaient des tissages bien avant l'arrivée des colons, évidemment. Et cette tradition s'est maintenue chez les Péruviens, chez les Boliviens. Au Guatemala, on tisse des tissus vraiment très, très colorés. Je pense que vous voyez un petit peu ces tissus avec ces motifs très jolis avec des couleurs dites très vives. Et au Mexique, il y a aussi beaucoup de... Il y a une tradition de tissage assez importante également. Donc c'est les jeunes garçons qui tissent pendant que les mères et les sœurs filent. Donc c'est une histoire familiale. Donc aux États-Unis et au Canada, le tissage est quand même moins présent et ça s'est perdu. Mais grâce aux travaux des archéologues et des anthropologues, on redécouvre un petit peu cette culture et les gens s'intéressent de nouveau à ce tissage et notamment au tissage des Indiens. En Europe, on trouve une grande variété de tissus, plusieurs manières de les travailler. Donc il y a les tissages des pays d'Europe centrale et orientale qui sont à base de laine, plutôt avec des couleurs vives et assez rustiques. Donc ils ressemblent beaucoup aux tissages d'Amérique du Sud. Et puis on peut regrouper les tissages du sud de l'Europe, notamment en Grèce, Italie, Portugal et un peu le sud de la France où là on travaille le lin, le coton et la laine fine. Donc on utilise des métiers à tisser identiques à ceux d'aujourd'hui. Et malgré l'industrialisation du tissage dans ces pays, le tissage artisanal n'a pas disparu pour autant. On trouve encore des tisserands très compétents. Notamment, certains d'entre eux donnent des cours également au niveau de leur commune. Et il y a de plus en plus de tissage à la main dans les boutiques d'artisanat et de foires locales. Mais c'est sans aucun doute dans le nord de l'Europe que le tissage artisanal s'est très bien maintenu, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne, mais aussi au Danemark, en Norvège, en Finlande et en Suède. Dans ces pays, le tissage fait vraiment partie de la vie quotidienne. Il y a des métiers à tisser presque dans toutes les maisons. Il y a notamment les métiers glimarca, toïka qui sont encore faits dans ces pays. Ils ont évidemment, une grosse ressource en bois dans leur forêt, les Suédois, les Norvégiens, ils fabriquent des métiers très robustes, pratiques et très esthétiques. Ils font des très jolis tapis avec des tissus réversibles. Il y a du tissage partout dans le monde, mais il y a des endroits où ça a su rester, c'est encore important, et d'autres où ça s'est un petit peu plus perdu. Voilà, j'espère que ce petit voyage dans le temps et ce petit voyage autour du monde du tissage vous a plu. Ben, je vous invite, si vous voulez aller voir quelques photographies, à vous renseigner sur le tissage. J'essaierai de vous mettre des liens dans les notes pour cet article, de livres que j'aime bien ou de sites. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées, des inspirations. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour des nouvelles aventures paysannes et créatives. Et je vous souhaite un agréable mois d'avril. Et surtout, restez curieux!